Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Hélène, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es ici sur la place Jules Plan avec ton atelier, accompagné de Natacha, sur un atelier de poterie, initiation à la poterie, le tournage de terre à la main.
Avec modelage.
L'association Buenas Ondas.
Ouais.
Et ce, dans le cadre de l'Arché des Potiers, le 13e cette année.
Voilà. Ouais, ouais.
Et chaque année, donc, vous êtes appelé pour animer cet atelier qui, il semble bien être un beau succès.
Oui, ils reviennent, les personnes reviennent chaque année. C'est vraiment un rendez-vous. Il y a des enfants qui restent des matinées, des après-midi entières, et puis c'est complètement libre. Les parents peuvent rester, tout ça, c'est même conseillé. Et puis, aujourd'hui, on a démarré la journée avec une maquette, avec une montagne et un lac. Pour guider les enfants qu'ils voulaient là-dedans. Et puis on a ramené des engobes, en fait, c'est des terres liquides de couleur pour ceux qui préféraient peindre plutôt que modeler. Et alors c'est des engobes qu'on a trouvé quand même à Justin, à Boulk, c'est des terres du coin. Donc en fait, comme on faisait une montagne avec un lac, on trouvait ça bien de mettre un peu de la terre, pas de la terre, du commerce, quoi. Voilà.
Et
donc là, il y a des enfants qui rajoutent de l'eau, des enfants qui mettent de la peinture, enfin de la terre, voilà, et des enfants qui mettent des serpents qui sortent de l'eau ou des dinosaures, des ponts, des îles, beaucoup de choses dans l'eau quand même.
Donc c'est vraiment de l'initiation au modelage.
Oui, oui.
C'est ça.
Ouais.
Avec une liberté totale pour l'enfant de faire ce qu'il veut, à part ce cadre de ce paysage.
En fait, ils peuvent faire des choses pour eux aussi. Donc, je leur dis, vous faites quelque chose pour la maquette, des choses pour vous, comme vous voulez. Oui, non, là, c'est vraiment liberté totale, là, ici. Ouais, ouais, ouais. Je leur montre comment faire les collages, parce que quand même, c'est important, hein, on leur montre. Et puis, à part ça, roule, hein. On leur montre comment couper la terre, et puis ça y est, c'est parti. Ça...
Il y a des outils aussi avec lesquels
le minimum, ouais, les petits pics à brochettes en bois sont quand même des outils prisés pour faire les collages aussi, quelques pinceaux, deux petits rouleaux, voilà. On a pris vraiment le minimum parce qu'en fait l'année dernière il y avait 3 tables et ça désemplissait pas. Donc nous dans ces cas-là on se transforme en machine à donner la terre et donc
oui.
On peut pas imaginer quelque chose de plus. Enfin, il faut que l'atelier soit permette l'autonomie.
Et puis je vois que beaucoup de parents savent faire aussi
oui.
Au modelage.
Ouais, oui.
Et ça vous a donné l'idée donc peut-être de créer des nouveaux ateliers aussi.
Oui, alors à Buenas Ondas en ce moment, je développe la poterie primitive. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser de pas être obligé d'aller au magasin de terre pour acheter de la terre qui se trouve quand même très loin, hein, Lyon, Uzès. Au moins au plus près et de pouvoir aller la chercher dans la nature et puis aussi parce que c'est une belle idée et alors du coup en fait pour toutes les personnes que ça intéresse en fait ben je leur montre donc j'en ai déjà récolté un peu partout là la fameuse coulée de bout de boulk à Justin à Diolfi à Féline à Comps à dans la Drôme. Le sable aussi, le sable différent aussi. Et donc en fait, on va tester tous ces matériaux. On va tester la granulométrie qui va permettre de nous avoir donné des indications sur au niveau du séchage et de la cuisson, ce que la terre peut encaisser et aussi au niveau du modelage, ce qu'elle peut permettre de faire. Puis on va faire des tests de modelage évidemment et puis des tests pour savoir s'il y a du calcaire à l'intérieur. Parce que s'il y a du calcaire, c'est pas intéressant de cuire. Ça pourrait se casser. Donc voilà, on teste les terres, on modèle des choses. Là, il y a de la doc, les poteries, il y a des très belles choses en poterie néolithique, africaine, indienne. Et puis après, les techniques de décoration qu'elles avaient avec des coquillages. Il y a le polissage aussi de la terre. Qui, en fait, après, on va cuire dans le bois. Et du coup, en fait, si on polie la pièce, en fait, les traces de la flamme seront plus nettes. Il peut y avoir des très beaux dessins. On peut aussi avoir une approche de la sigillée, c'est la technique romaine, grecque, c'est l'ancêtre de l'émail.
Il y a effectivement un stand avec
ici, là, il y a
un producteur qui protège.
Ouais, très beau. Il y a deux stands de sigillés même, dont un qui est très beau là. On voit les traces de combustible, les traces de flammes et en fait, voilà, c'est tout ça, ça va ensemble en fait. Parce qu'en fait, pourquoi on prend... Donc après, on termine en cuisant dans un feu de bois. C'est-à-dire que poterie primitive, il n'y a pas de four. C'est juste un feu de bois comme ça ouvert. Enfin, il y a une petite technique spéciale.
C'est une quantité de bois quand même énorme, je suppose.
Oui, plus ou moins. C'est moins compliqué que ce qu'on croit en fait. Et c'est intéressant quand même de me recouvrir de paille pour pas que les pièces soient à moitié à l'air, parce qu'après elles subissent des chocs de température trop importants en fait entre l'air et la braise qui est à 900 degrés. Voilà. Alors du coup, en fait, pour encaisser des chocs de température comme ça, en fait. La terre qu'on peut récolter en extérieur, c'est celle qui l'encaisse le mieux. Et la terre du commerce, en général, elle n'encaisse pas. Donc en fait, il y a quelque chose de logique, en fait. Le feu, la terre qu'on récolte, la sigillée qui se fait avec la terre qu'on récolte, qui permet d'avoir les traces du feu de manière beaucoup plus détaillée. Tout ça, c'est logique, en fait. Ça va ensemble.
Alors les terres du commerce sont trop nettoyées ou complètement aseptisées ?
Ouais, c'est ça, en fait, elles sont lavées. Elles sont lavées, elles sont homogénéisées. Et en fait, ça fait un produit qui est, je ne sais pas, peut-être trop homogène. Et du coup, c'est comme du verre, en fait. Tu mets du verre à moitié dans le feu, à moitié dehors. Ça va casser parce qu'il y aura une tension. C'est mécaniquement, ça ne peut pas résister à la tension. Alors que si tu mets une plaque plutôt avec plein de je sais pas, de bulles d'air à l'intérieur, de cailloux, mécaniquement assez compliqué en fait, ben là en fait ça peut encaisser davantage.
C'est un peu comme la terre chamottée
C'est ça. Et après, mais même leur terre chamottée elle est un peu trop homogène. Mais ouais. Bon, avec beaucoup de chamottes, ça passe bien. Mais du coup là, j'ai ramassé du sable qui permet de chamotter la terre soi-même.
Et il y a combien de couleurs de terre dans le Diwa ou dans les environs?
Ben, que vous les cherchez si on prend toutes les teintes de marron, il y en aura beaucoup, beaucoup.
Et qui conservent leur couleur, qui amènent une couleur à la cuisson vraiment particulière.
En fait, les terres, on les voit grises, blanches, jaunes, rouges. Tout ça, c'est plusieurs états du fer, même bleu ou verte. Tout ça, c'est le fer, en fait, qui s'est en fait mis avec ou sans oxydation. Il change de couleur, mais au final, quand on cuit, si on cuit avec une flamme qui brûle bien, bah de toute façon, ça devient rouge. Rouge, rose. Donc, des fois, on se demande pourquoi on cuit, hein, quand même.
Ouais.
La terre est tellement belle sans être cuite.
Ensuite, vous utilisez, alors, tu disais que tout à l'heure, vous récupériez aussi de quoi faire des engobes. Voilà.
Ouais.
Et les engobes, elles-mêmes, ont leur propre couleur.
Oui, c'est
après
ça.
La cuisson.
Alors bah oui, pareil, c'est toujours ça. Là, on les utilise, on les cuit pas aujourd'hui.
Non, mais ce sont des engobes que vous avez trouvées vous-même.
Oui, ouais.
Et ça consiste en quoi alors? C'est-à-dire, ce sont des terres qui sont à l'état brut.
Ouais.
Et donc avec des impuretés peut-être. Et comment vous faites pour la nettoyer ou enlever le plus gros?
On les fait sécher.
Ouais.
On les réduit un peu en poudre, enfin plus ou moins. On les met dans l'eau. Et on les laisse gonfler tranquillement, un peu comme quelqu'un qui veut faire son enduit de terre. Il faut toujours laisser la terre gonfler,
ouais.
Sans trop la remuer, même pas du tout. Et après, en fait, le lendemain, ou 10 minutes après, enfin bon, ça dépend de la quantité, on peut remuer et là, on a un bel engobe. Et là, le sable tombe au fond et voilà.
D'accord.
On a une boue assez liquide, en fait. Un engobe,
ouais.
C'est une boue liquide. Ouais. La barbotine sera une boue un peu plus épaisse.
Et ça s'adressera à qui, ces ateliers de poterie?
Alors actuellement, là, il y a j'ai eu plusieurs familles qui sont venues sur trois jours, en fait, enfin, trois journées. Alors, moi, j'aimerais bien que c'était à chaque fois une seule journée, des ateliers d'une journée. Du coup, on faisait des toutes petites choses parce qu'il fallait qu'elles puissent sécher pour que l'après-midi, on puisse les cuire. Mais ce serait bien, sinon, de faire deux demi-journées ou deux journées espacées. Comme ça, on fait des grandes pièces, mais vraiment des belles pièces. Et puis, on les laisse sécher tranquillement. Et une semaine après, on les cuit. Ce serait super.
Vous organisez donc des petites périodes courtes avec hébergement ou pas?
Non, c'est pas sans hébergement.
Non.
Et ça se passe à Minglon,
oui.
Au Buenas Ondas.
Oui.
Et en fait, là, j'ai une journée prévue bientôt. Je sais pas la date là tout de suite, mais Je vais bientôt mettre des flyers un peu partout pour parce que
c'est
là ça commence
pendant
à...
le mois de juin ou...
pendant le mois de juin. Il y aura une cuisson. La cuisson, ce sera par exemple le 11 juin, l'après-midi. Donc on va faire un beau feu, enfin une belle. Il y a une technique en fait, on appelle ça une cuisson en meule.
Meule, c'est quoi ?
Eh ben, c'est pas un four, mais c'est quand même un feu un petit peu fait d'une certaine manière quand même. On essaye voilà, de manière à optimiser. C'est en fait c'est à l'africaine en fait. Voilà. Et donc oui, je serais ravie de continuer. J'ai aussi proposé des journées pour les enfants, poterie primitive. Et là, on allait récolter la terre en haut de la colline. Avec les enfants, ça ils aimaient bien. Quand ils viennent aussi, ils essayent le tour, les enfants, c'est chouette aussi. Pour les adultes, le lundi après-midi, je propose des ateliers. On fait des bijoux en raku aussi.
Et quelle est ta formation initiale ? Tu as fait de la poterie toi-même ?
Oui.
Et ouais. Tu as aussi fait d'autres études autour de la poterie, comme la chimie ou un peu l'histoire de l'art ?
Ben, à la base, j'ai une formation beaux-arts, donc... J'ai une formation histoire de l'art. Et puis après, j'ai fait surtout de l'animation pendant des années. Et puis, je suis venue à la céramique. Donc là, CAP décoration, CAP tournage. Et puis après, la formation de Diolfi, qui dure un an, où je me suis spécialisée dans la cuisson au bois. Et des petits fours papier, on appelle ça, des petits fours éphémères, en fait. Et puis la sigillée, l'engobe de sigillée, cette fameuse technique qui permet d'avoir la trace de la flamme sur sa... Voilà, ouais. C'est tout ça qui m'intéressait. Et voilà. Et voilà, tout ça. Du coup, aujourd'hui, bah, moi, l'animation, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, au niveau de la production, bah, j'y viens.
Et si jamais, par exemple, des personnes veulent pratiquer la poterie primitive, comment font-elles pour vous contacter ?
Alors, c'est plutôt j'ai un mail et puis un téléphone. Donc, le mail, c'est Hélène Brie. Parce que moi, c'est Hélène Brie, comme aux agités aussi. On peut voir mon affiche avec mon numéro de téléphone et mon adresse mail affichée sur les deux portes des agités du local, où je propose des ateliers pour les enfants le mercredi après-midi, depuis 2 ans maintenant, et je vais continuer, je pense. Alors, il y a mon numéro de téléphone, c'est le 06 41 46 70 91. Et puis, mon mail, Hélène Brie Céramique, tout accroché, @gmail.com. Je propose des ateliers... pour les adultes, tous les lundis après-midi à la Buenas Ondas, on fait de l'estampage, c'est-à-dire utiliser des moules en plâtre pour faire des grandes pièces, des plats, des saladiers, des bols, tout ce qu'on veut. Des bijoux raku, je l'ai déjà dit. De la poterie primitive, on l'a fait. Du tournage. Des empreintes. Voilà. En gros, c'est à peu près tout ça. Et aussi le mardi soir, une semaine sur deux. Et sinon, pour les enfants, pour l'instant, c'est soit à la Buenas pendant les vacances, soit aux agités tous les mercredis.
Et la technique du moulage, vous avez des moules ou vous fabriquez les moules avec les personnes qui viennent et puis ensuite vous pratiquez du moulage ?
Alors, j'en ai fabriqué des moules. On pourrait le faire, mais déjà, pour l'instant, on les utilise déjà. Les personnes qui viennent, elles ont surtout envie de se faire des pièces et je trouve ça tout à fait... Enfin, je trouve ça chouette, quoi, de vouloir faire son porte-savon. C'est l'autonomie, quoi. Et donc, pour l'instant, les personnes ont envie soit d'expérimenter la terre, soit de faire leurs pièces, soit de découvrir le tournage. Il y a une personne là qui va venir faire son carrelage. Mais après, il y aurait des choses spécialisées qui pourraient se développer, mais bon, chaque chose en son temps.
Toi, ça fait combien de temps que vous avez lancé cette aventure de Buenas Ondas avec la poterie ?
Alors, en fait, Natacha l'avait déjà lancé avant. Oui. Et puis, c'était en septembre, pas l'année dernière, l'année d'avant, elle m'a proposé. Elle m'a dit « Ah, je cherche quelqu'un pour partager l'atelier ». Moi, j'étais à Diolfi, je me suis dit « Ah, ça a l'air tellement bien le DIY ». Et puis, Natacha, ce qu'elle me propose, ça a l'air tellement chouette. Et du coup, je suis venue. Et puis, ça s'est mis tout petit à petit en place.
Bonjour, Natacha.
Bonjour, Erdoua.
Toi-même, tu es en fait fondatrice de ce club de poterie. Enfin,
et oui.
De cet atelier de poterie.
Ouais.
Voilà, qui avait commencé par le tournage à la main, c'est ça ?
Oui, c'est ça, avec mon tour à pied. Et en fait, j'ai refait tout l'atelier en dessous de la maison de Buenas Ondas. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai commencé à faire des ateliers. Je faisais le marché des potiers quand même depuis 2012. Et c'est comme ça que, bah voilà, qu'il y a eu plein d'enfants qui sont venus à la maison pour faire des ateliers. Et Puis un jour, voilà, Hélène m'a appelé pour partager l'atelier. J'ai trouvé ça plutôt chouette d'avoir une potière formée à la maison avec nous. C'est bien utile.
Parce que toi-même, tu es potière quand même.
Oui, enfin, si on veut, quoi.
Avec des notions de chimie, d'histoire de l'art.
Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, mais moi, j'ai pas fait d'école. Moi, j'ai appris au vent, par moi-même et avec d'autres potiers.
Oui, on apprend la société par soi-même, hein, on nous l'apprend pas à l'école.
Non, hein. Vaut mieux pas de toute façon.
Non.
Et donc,
il y en a qui sont devenus feignants après l'école. Hein,
oui, ou même à l'école, quoi. Quand ça nous intéresse
moi, j'étais
pas.
À l'école.
Ouais, moi aussi. Hein. Ça va. Je pense qu'on se serait bien entendu à l'école.
Voilà. Comment ça se passe, l'association des poteries
C'est l'association Buena Sandas et nous, les potières, sont logées par l'asso.
Pardon, comment s'appelle votre association précisément?
Buena Sandas.
Mais pour la poterie aussi?
Je pense que la dernière fois, on s'est appelé. En fait, on change un peu de temps en temps. Là, le nom n'a pas vraiment de nom fixe. On s'était appelé les potiers en herbe, après, on s'était appelé les poteries. Voilà, donc ça dépend un peu du temps, tout ça. Mais voilà, sinon on est la poterie à Buena Sandas, quoi. En tout cas, on est basé là-bas, parce que on a l'atelier, et puis on peut faire des ateliers à l'extérieur. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un grand terrain, du coup, avec la colline. On peut aller récolter de la terre sur la colline aussi. D'argile pour après faire des choses avec et la cuire sur place. Du coup, c'est vraiment un lieu qui s'y prête, quoi. Et qui nous permet de passer des super journées, ce qu'on fait à la journée, ou sur 2 jours, ou 3 jours, pour bien que les enfants ou les adultes puissent finir leur poterie.
Sans donner des chiffres précis, mais vous avez jusqu'à combien d'inscriptions là?
Ça dépend. Aux dernières vacances, on a un peu fermé les inscriptions à 6 enfants. Parce que quand on est toute seule, 6, c'est déjà bien.
Oui.
Et quand on fait avec les familles, on peut monter un peu plus, quoi, jusqu'à 10. Ça nous est arrivé d'avoir des journées où il y avait 14 enfants. Mais quand on est toutes les deux avec Hélène, c'est chouette. Parce que comme ça, on peut plus être avec eux, plus les accompagner. Pour qu'ils fassent des belles pièces, quoi, qu'ils arrivent vraiment à faire des pièces finies, qu'on puisse cuire ensuite, quoi.
Très bien.
Et d'ailleurs, s'il y a des enfants qui nous écoutent ou des parents qui sont déjà venus, nous avons plein de pièces à récupérer qui sont en stand-by et qui attendent. Voilà.
Eh bien, Natacha, merci d'être venue parler au micro.
Merci, Erdiwa, d'être toujours là sur chaque événement, de nous soutenir.
Oui. Vous nous soutenez aussi.
Oui,
hein.
On vous aime tellement.
Allez. Bonne journée.
Bisous, hein.
Au revoir.
Puiser la nuit sur cette plage, dans cette rage, elle a disparu.
Comment votre prénom, bonjour?
Gabriel, bonjour.
Gabriel, alors vous êtes céramiste?
céramiste sur Saillant.
Sur Saillant, oui.
Voilà, donc là, ça fait 5 ans que je suis installée à Saillant. Et je reprends là tout juste l'activité après mon congé parental.
Et ça fait combien d'années que vous pratiquez la céramique ?
J'ai fait ma formation en 2008.
Oui.
Voilà, à l'école d'Aubagne, j'habitais Marseille à l'époque. Et donc, de manière continue, mais pas à plein temps, depuis j'en fais. Voilà, j'ai déménagé, j'ai eu 2 enfants, donc voilà.
Et votre technique consiste en quoi pour la céramique, poterie ? C'est une technique, comment on appelle ça ?
Là, pour...
Pour les cuissons.
Voilà, avec... là c'est de la terre qui est polie et enfumée. Donc moi j'utilise un grès. Que je cuis en première cuisson à 980 degrés. Voilà, ça permet de garder de la porosité et que la fumée s'imprègne bien.
Voilà. Et vos inspirations, à part la poterie, il semble-t-il que ce soit les tortues, carapace de tortue par exemple.
Ouais, ça j'aime bien. Donc cette pièce-là, du coup, c'est vrai que comme j'aime beaucoup polir, j'ai cherché en fait des formes qui serait agréable à polir. On ne peut pas être dans des angles très droits, donc trouver des courbes, des arrondis et tout ça. Donc c'est vrai que l'idée de la carapace m'est venue et effectivement c'est très agréable à polir.
Vous vous inspirez de la nature pour vos tortues ou alors c'est une part d'imaginaire avec ou de mémoire, un travail de mémoire sur la forme?
Bon, au niveau de la forme, là, j'ai quand même pris des visuels de vraies carapaces. Et puis voilà, après, moi, je fais les écailles. C'est à peu près semblable à ce qu'on va trouver sur une tortue. Voilà, et puis après, au niveau des décors, on n'est pas... Mais bon, c'est surprenant le nombre de personnes qui pensent que ce sont des vraies carapaces, quoi.
Et c'est assez trompeur, hein, la première fois qu'on les visionne, effectivement. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans la céramique ou dans la poterie ?
Moi, la base, c'est quand même, je pense, mon goût. Bizarrement, c'est mon goût pour le thé. Ce qui fait qu'en fait, j'étais un peu collectionneuse de bols. Donc, je faisais beaucoup les marchés potiers pour trouver des bols. Et au bout d'un moment, je me suis dit que je ne pouvais pas être dans l'accumulation et qu'il fallait que je les fasse, quoi. Donc voilà, c'est vrai que le travail au départ, moi je pars du bol. Et puis après voilà, il y a d'autres formes qui me plaisent. J'aime beaucoup les boîtes, j'aime bien les vases aussi. Enfin toutes les pièces que je fais là me plaisent, mais c'est le travail de départ, c'est vraiment le bol.
Et comment ça se passe ? Vous arrivez à en vivre de votre art ? Ou c'est un apport complémentaire ?
Là vous parlez de l'aspect financier du coup ?
Oui.
Là je démarre un petit peu aussi.
Oui.
Je suis optimiste.
Vous pensez qu'il y a un intérêt accru des gens pour la céramique ?
Je pense que oui. Je pense que les gens sont quand même sensibles à. Voilà, on est dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont industrielles, en série, et tout ça. Je pense que quand même, il y a toujours un public. Et ce n'est pas forcément les gens qui ont le plus d'argent qui vont vers l'artisanat. Ça peut être... Moi, je sais que le travail que je propose, c'est souvent des personnes qui achètent pour elles-mêmes et pas seulement pour faire des cadeaux. Oui, je pense que y a de la place pour l'artisanat encore, même si ce n'est pas évident. Pas évident.
Là, vous dites que vous êtes en reprise après un congé parental.
Ouais.
Et quel est votre idéal au niveau d'une création ? Vous rêvez d'une œuvre que vous auriez envie de créer en poterie ? Ça, vous imaginez ça parfois ?
Là, non, j'ai très envie.
Parce que vous alliez la sculpture avec...
Voilà, au niveau de la sculpture, et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir travailler un petit peu avec dans le luminaire, en fait, parce que j'aime bien l'effet de la lumière aussi, avec des pièces qui seraient ajourées. Ça, c'est un projet. Et puis après, moi, continuer... Je suis pas dans des projets, pour le moment, en tout cas, de pièces monumentales. Moi, ça me plaît l'idée, vraiment, d'artisanat, d'art vivant. du fait que voilà, ce soit des pièces qui sont pas là que pour être jolies, qui sont là pour être touchées et servir à quelque chose. C'est pour ça que le bol, ok, il est beau, faut pas qu'il reste dans un placard.
Il faut qu'il serve.
Voilà, il faut qu'il serve. Et voilà, donc, et puis bon, bah après, bah, c'est sûr que ça tombe, ça se casse, mais c'est fait pour être remplacé, ça reste de l'objet, quoi.
Oui, ça reste un objet, oui. Malgré qu'il soit beau.
Voilà.
Hein, mais sa vie aussi.
Moi, c'est vrai, j'aime bien garder certaines distances avec la dimension artistique, parce que bon, ça reste quand même très conceptuel. Et je tiens vraiment à ce que je fais au quotidien puisse être abordable pour tout le monde.
Je voulais savoir une chose. Est-ce que en sortie de four, vous avez des déceptions par rapport à une idée que vous aviez avant la cuisson et qui ne sort pas? Et est-ce que cet accident pour vous vous déçoit ou vous instruit?
Ben un peu des deux. Après, ben il y a un équilibre entre les mauvaises surprises et celles qui sont agréables aussi. Donc ben voilà, on apprend des réussites, pas forcément plus que des erreurs, mais c'est petit à petit, on met en place tout ça. Et puis bon, ben nous, on est toujours dans ce regard critique par rapport à notre travail. Et bon, on en parlait encore avec une collègue tout à l'heure, ben, y a des défauts. L'amateur de poterie qui ne sait pas voit le défaut et trouve ça génial, quoi. Parce qu'effectivement, vu que c'est un défaut pour le potier, il est systématiquement éliminé. Donc c'est des choses qui ne se voient pas forcément sur un marché, quoi.
C'est comme un timbre. Hein, ouais. Un timbre édité avec son défaut a beaucoup plus de valeur qu'un timbre normal. Vous tenez compte en fait de l'apprentissage du hasard aussi de la cuisson, parce qu'il y a beaucoup de hasard dans la cuisson.
Complètement, parce que là, moi au départ, j'étais très attirée par le raku, et ça veut dire le bonheur dans le hasard, raku en japonais. Et donc moi, je me suis dirigée vers cette technique-là de polissage et d'enfumage. Mais de toute façon, avec l'enfumage, c'est complètement hasardeux, parce que mes pièces, elles sont quasiment blanches quand je les mets au feu.
Oui.
Et voilà, et elles ressortent avec toutes ces variantes de gris et de brun. Et donc ça, c'est complètement le hasard. Là, je ne sais pas à l'arrivée comment ça va être.
Et le bois, quel bois vous utilisez
Je suis sur du copeau de pin, simplement. Bon, du coup, c'est résineux. Des fois, ça me fait un peu des dépôts et tout ça. Et sinon, c'est le bois de mon jardin. Voilà, je ne suis pas au niveau de... Non, j'ai pas de, pour le moment, de...
D'ailleurs, vos terres, vous les achetez ou vous les cherchez vous-même?
Non, j'achète.
Vous les achetez.
J'achète, c'est vers Lyon. Par contre, je recycle toute la terre.
Très bien. Eh bien, voilà.
Ben merci.
Ben merci aussi d'avoir pris un peu de temps pour parler au micro. Et si on veut connaître votre travail, il est visible quelque part
Ben moi, je suis à Saillant. Donc j'ai mon atelier qui est juste à côté du pont du Rieux Sec. Voilà. Et puis je donne des cours aussi depuis cette année. Voilà, des ateliers pour parents, pour enfants, parents-enfants.
Voilà. Vous avez un site internet
Non, pas encore.
Non, pas encore, mais ça va venir.
J'espère, ouais.
Vous avez un atelier à Saillant.
À Saillant, voilà, c'est dans la grande rue.
Oui. Vous êtes
Je suis Gabrielle Longchamp. Ok.
Merci. Bonjour Yoduna.
Bonjour.
Alors, tu es ici aujourd'hui au sein du marché de Poitiers pour des démonstrations de tournage.
Ouais. C'est ma troisième année. C'est la troisième année que c'est moi qui fais la démonstration de tournage au marché de Die.
Et tu, toi-même, tu produis de la céramique?
Bah, je suis en apprentissage depuis presque 3 ans, ou 3 ans, on va dire. Mais j'ai un atelier à Luc avec Daphné et Sylvie. Mais on fait très peu. En fait, on a un problème avec les fours depuis un an. Donc, on fait plutôt tournage, malaxa, enfin, modelage et tout ce qui est avant cuisson. Tout ce qui est cuisson et maillage, je suis bien perdue encore.
Et vous cuisez ailleurs alors ?
Des fois on cuit ailleurs. Le problème de cuire ailleurs, c'est que les fours sont jamais les mêmes que les... Quand on connaît son four, on sait comment les manipuler, que si la cuisson elle change de température quand il faut qu'il faut pas qu'elle change, les couleurs des aimants ils changent aussi. Donc moi je suis pas pressée, je sais que je vais être potière, mais voilà. Apparemment, enfin moi ce que je me dis c'est que le métier de potière, c'est des potiers, c'est un métier de patience. Donc c'est un travail à vie, je pense, pour moi.
Ça fait combien d'années que tu dis que ça fait 3 ans
ouais,
que tu es installée,
mais... Enfin, pas installée, ça fait 3 ans que j'ai commencé à toucher un peu à la terre. Je me fais un cours de 5 jours à Dieu les filles, en tournage, avec Marie-Laure Lévitin. C'est une super femme qui a une approche magnifique au tournage. Et à partir de là, je m'achetais un tour. Et j'ai commencé à tourner chez des gens, j'ai voyagé, j'ai visité des potiers, j'ai travaillé chez les potiers. En échange d'apprentissage, je les aidais un peu à faire des travaux un peu à la chaîne ou à recycler des terres, des trucs comme ça. Et il y a une super potière à Lèche-en-Diwa, c'est Marie-Paul Monard qui m'a beaucoup aidée parce que j'allais beaucoup chez elle pour apprendre à faire des choses que je ne savais pas encore et pratiquer dans mon tour à la maison.
Ça t'est venu comment, cet intérêt pour la poterie ?
J'ai toujours eu une approche assez proche à tout ce qui est manuel. J'ai,
la terre en principal ?
En fait, non, pas la terre en principal. Mes études de base, c'est j'étudie la photo, image et son. Et donc je travaillais pendant 10 ans en photo, j'avais marre et j'ai changé à d'autres métiers, mais toujours en faisant la vannerie, un peu des poteries, un peu des bricolages et des trucs, des bijoux, des machins comme ça. Et en fait, aux Canaries, d'où je viens, j'ai fait une petite formation en plaque avec un potier de là-bas. Et j'ai vu que voilà, que ça me plaisait bien et que j'étais douée, enfin que j'arrivais à faire ce que j'avais envie de faire. Et en arrivant dans le Diwa, ça fait 3 ans et demi, j'ai vu qu'il y avait plein de potiers et je me suis dit c'est le moment où développer ça. Et j'ai commencé.
Et tu sens qu'il y a un intérêt du public croissant chaque année
Je pense que chaque année, c'est la folie, il y a plein de monde. C'est trop bien. Les gens, quand je tourne, franchement, la première fois que j'ai vu tourner, pour moi, c'était une magie. Et c'est exactement ce que j'ai transmis quand je suis au marché de potiers. Je vois que les gens hallucinent avec les tournages, parce que c'est vrai que voir une boule de terre devenir un bol en 2 minutes, c'est toujours impressionnant. Et c'est pas si le flux des gens c'est en croissance, mais c'est vrai qu'à chaque année il y a plein de monde.
Tu vis de quoi alors actuellement ?
J'ai vu de plein de choses. En fait, j'ai fait les vendanges, j'ai fait des remplacements à la poste, à Luc. Je suis allée à Nyon faire les olives. J'ai travaillé en plein de choses. Et en même temps, quand je ne travaille pas, j'ai mon chômage.
Oui.
Donc, c'est pas de la poterie que je vis encore. Un jour, je ne sais pas quand. Mais voilà. J'ai fait plein de choses à côté, donc ça me va bien comme ça.
Comment en es-tu venu à participer à ce marché des potiers depuis 3 ans, là, à faire des stands?
Je ne sais pas comment c'était passé la première fois, si je parlais avec Juliette ou avec Fanny. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ou que c'est elles qui m'ont proposé de venir faire. Ils savaient que j'avais commencé avec les tournages. Et ils m'ont proposé, elle, je pense. Ouais.
Voilà. Et là, maintenant, je crois que tu as un public qui t'attend pour le tournage de 17h.
Ouais. Voilà. C'est ça.
Eh bien, merci, Yudena, d'être venue au micro.
Ouais. Interview.
Au revoir.
Interview.
OK. The bird.
L'interview du jour.